si je rentre, enfin, si j'essaye de décrire cette société, alors je pense assez d'accord sur le fait que la fracture du majeur de cette société, comme le disait Pierre Bourdieu dans sa sociologie, la fracture majeure de la société algérienne, c'est celle qui oppose ou qui distingue les Européens des Algériens. Donc je vais prendre chacun de ces deux groupes successivement et essayer de montrer que c'est pas du tout des réalités homogènes, mais que dans ces groupes, il y a plein d'autres critères qui font que c'est une société extrêmement complexe, comme toutes les sociétés d'ailleurs. Mais du coup, je vais me centrer sur la fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et si on prend d'abord le groupe des Algériens, alors je me centre sur cette carte-là. Il y a en fait en 1900, enfin au début de la guerre d'indépendance, vous avez 1 million d'Européens pour 9 millions d'Algériens. Si ça permet de poser peut-être le cadre. Et donc, si on prend d'abord ce groupe des Algériens, vous avez d'abord ce qui me semble un clivage majeur, mais qui est enfin, pas toujours mentionné. Il faut imaginer que la réalité est extrêmement différente selon qu'on en est un homme ou une femme, par exemple, selon qu'on en est un Algérien ou une Algérienne. Et notamment, on peut peut-être rappeler que l'islam stipule bien sûr l'égalité entre les hommes et les femmes. Et que c'est seulement après, parfois, dans l'application, dans les coutumes, dans les pratiques, qu'on a des situations, que cette égalité est contournée. Donc, en fait, notamment, les femmes, dans l'Algérie coloniale, restent à la maison souvent, en tout cas au début du siècle, au début du XXe siècle. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont globalement très peu scolarisés. Je vais revenir sur la scolarisation, mais les petits garçons algériens sont peu scolarisés, mais pour les filles, c'est extrêmement rare, jusqu'à l'entre-deux-guerres, où là, on a notamment une frange de la bourgeoisie occidentalisée, entre guillemets, algérienne, qui a tendance à plus facilement envoyer ses petites filles à l'école. Mais de même qu'il y a un faible accès à l'école, pour les jeunes algériennes, il y a souvent aussi un faible accès à l'emploi salarié, c'est souvent des femmes qui travaillent dans il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les champs, beaucoup de femmes qui travaillent dans l'artisanat domestique, mais le salariat à l'extérieur de la maison est assez rare, même si on trouve dans les archives quand même des traces de, notamment dans les milieux défavorisés et urbains, un certain nombre d'Algériennes qui travaillent en dehors de chez elles et qui, notamment, qui sont domestiques, ouvrières parfois, ou chiffonnières aussi. Mais donc là, on est dans des milieux sociaux extrêmement défavorisés et essentiellement en milieu urbain. Je suis rapide et c'est sans doute un peu schématique, mais ça donne un ordre d'idée. Autre type de clivage qu'on peut faire ou de distinction, c'est un peu sous-jacent depuis le début, c'est aussi une distinction entre vivre à la campagne et vivre en ville. C'est extrêmement différent. Et notamment, si je me concentre plus sur la période de l'entre-deux-guerres, vous pouvez avoir remarqué que, par exemple, la société rurale algérienne est extrêmement hiérarchisée. Et ça, c'est assez intéressant parce que on a souvent eu ce mythe de la colonisation est un rouleau compresseur qui égalise les conditions des Algériens. Et ça, enfin, c'est quelque chose qui se retrouve dans les écrits. Et en fait, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'au contraire, la colonisation a étiré les inégalités au sein même du groupe des Algériens. Et donc vous avez notamment dans l'entre-deux-guerres des riches propriétaires algériens qui sont de plus en plus riches et qui notamment par des pratiques usuraires et aussi parce que les Européens ont tendance à quitter les campagnes, rachètent les terres qui avaient été spoliées pendant la période précédente. Donc en fait l'entre-deux-guerres, c'est une période de reconquête des terres. Des terres spoliées dans les années 1870-1880. Et donc c'est une période de reconquête, mais qui ne se fait qu'au profit des plus favorisés des Algériens, si vous voulez, dans le milieu rural. En dessous, vous avez des paysans relativement aisés qui possèdent des terrains de 20 à 40 hectares, puis la grande masse des propriétaires, des petits propriétaires algériens, paysans, c'est les fellahs, c'est des micro-propriétés et pour lesquelles, dans l'entre-deux-guerres, la situation est de plus en plus difficile. De fait, à ce moment-là, s'agrandit le groupe qui se trouve encore en dessous au sens de richesse ou aisance, enfin j'en sais rien, mais qui se trouve de plus en plus en difficulté et on a une masse de, d'ouvriers agricoles qui sont aussi des... Alors, je sais pas si... Qui sont aussi des... Qui sont plus du coup des alors, pardon. Ces ouvriers agricoles sont soit des métayers, on appelle ça les rames. Dans rames, alors je suis débutante en arabe, mais il y a ramsa, et ça veut dire... En fait, c'est des métayers au cinquième. Ça veut dire que c'était en fait des métayers qui récupéraient un cinquième de leur production. Mais ce statut-là a tendance à en fait décroître au profit d'un statut tout simplement de salarié agricole assez précaire, et avec cette idée que le travail n'est jamais garanti et que globalement ces personnes-là manquent de travail et tentent à quitter le monde rural aussi. On le voit assez dans un certain nombre de romans. Je pense par exemple au roman de Yasmina Kadra, par exemple, Ce que le jour doit à la nuit, au début de l'histoire, ils quittent leur domaine pour la ville, mais c'est assez présent dans la littérature. Ce prolétariat agricole n'est pas traité de la même manière que le prolétariat agricole européen, puisque par exemple, si on veut avoir un ordre d'idée, dans l'entre-deux-guerres, vous avez un jardinier indigène, entre guillemets, qui touche en moyenne entre 8 et 12 francs par jour, alors que pour faire le même travail, un jardinier européen touche plutôt entre 16 et 18 francs. C'est juste pour donner un ordre d'idée, mais on a vraiment ici des centaines de milliers de paysans sans terre qui continuent à essayer de vivoter dans le milieu, dans l'activité agricole, et qui parfois du coup doivent quitter la campagne pour les villes. Du coup, si on prend, mais je vais essayer d'être plus rapide, le groupe le côté de la société urbaine, et qu'on essaye de faire pareil, de voir de quoi elle est composée, de quoi est composée cette société urbaine algérienne, vous avez aussi quelque chose d'extrêmement hiérarchisé, avec par exemple une bourgeoisie moderne, entre guillemets, au sens de... Enfin, c'est le sens colonial de la modernité, c'est-à-dire cette idée que c'est une bourgeoisie acculturée à la France. En tout cas, c'est une réalité qu'une partie des classes aisées algériennes dans l'entre-deux-guerres sont allées à l'école, envoient leurs enfants à l'école, exercent des métiers... on commence à accéder à un certain nombre de professions libérales, mais c'est un groupe extrêmement minoritaire. Enfin, début des années 50, vous avez seulement 80 professeurs algériens dans l'enseignement secondaire et supérieur, 78 avocats, 75 médecins, 36 pharmaciens, 11 dentistes, 5 sages-femmes, 7 ingénieurs et 5 magistrats. C'est extrêmement... magistrats français. Enfin, pas au sens du culte de la justice musulmane. Donc c'est extrêmement restreint. Ça fait un groupe de 300 personnes, peut-être, au début des années 50, même si ça s'accroît après, pendant la guerre. Mais c'est une petite élite. Et ce qu'on peut dire, peut-être schématiquement, mais c'est que c'est un groupe politiquement relativement modéré qui va essayer, assez tard, de jouer la carte de la coopération avec la France et d'essayer d'obtenir les mêmes statuts que les Français, mais sans que l'idée d'indépendance ne s'impose très tôt dans ce groupe. Parallèlement, ce groupe s'oppose, entre guillemets, peut-être à une bourgeoisie plus traditionnelle qui, elle, reste ancrée sur des valeurs religieuses et traditionnelles fortes, qui en général portent le turban et le sarouel, y compris jusque dans l'entre-deux-guerres, et qui dénonce le groupe que je viens de décrire précédemment, qui est... comme étant des porteurs de redingotes et de chapeaux, des mtournis, en fait. C'est-à-dire ceux qui ont retourné leur veste, ceux qui ont fait le choix de la scolarisation et l'acculturation à la France. Je veux peut-être quand même nuancer ça, parce que quand je dis les mtournis, c'est en fait ce que j'appelle la bourgeoisie... moderne ou occidentalisée, c'est quand même des gens qui, la plupart du temps, n'ont pas fait le choix de la naturalisation, par exemple. On trouve des naturalisés dans ce groupe, mais vous savez ce que Sylvie Thénault décrivait la dernière fois, c'est-à-dire la naturalisation, c'est cette procédure où on renonce à son statut personnel de musulman pour obtenir la citoyenneté française, c'est-à-dire tous les droits civiques associés pour obtenir ces droits civiques-là. La plupart du temps, ces gens-là sont occidentalisés, mais ils restent quand même Enfin, cette question du statut personnel est une barrière qui cède assez tardivement et en dernier. Enfin, si on parle de gradient d'acculturation, mais c'est juste pour préciser. Mais et peut-être que en dessous de ces deux groupes qui sont quand même assez minoritaires d'un point de vue numérique, notamment le groupe de la bourgeoisie dite traditionnelle, est quand même voit son niveau de prestige et de richesse décroître de manière nette dans l'entre-deux-guerres. En dessous, on a un groupe en fait de classe moyenne nouvelle qui eux aussi, enfin qui lui aussi est passé par au moins l'école primaire française, qui a vécu en ville et qui souvent occupe un certain nombre d'emplois de petits fonctionnaires, mais aussi d'ouvriers assez aisés, de cadres de l'industrie et de l'artisanat. Et c'est un groupe qui va être acquis aux valeurs de l'instruction, etc., et notamment qui va avoir tendance à envoyer ses enfants à l'école aussi, dans cette idée que c'est un moyen d'ascension garanti. Et c'est un groupe qui, globalement, mais je schématise, hein, j'espère que c'est pas trop caricatural, mais c'est un groupe qui a des préoccupations généralement de moins en moins religieuses et de plus en plus politiques, et dans l'entre-deux-guerres, qui va être assez mobilisé. Voilà, je développe pas plus. Et bien sûr, la majorité des Algériens qui vivent en ville, c'est plutôt un prolétariat urbain. Ceux qui ont quitté les campagnes que j'ai décrites précédemment, ceux qui vivent parfois en bidonville, comme aussi dans l'ouvrage de Mohamed Dib, La Grande Maison, ou qui vivent entassés dans des quartiers extrêmement défavorisés et qui parfois ont du mal à trouver du travail. Je m'arrête sur ces questions. On pourrait encore compliquer les choses à volonté, mais si je me concentre davantage sur le groupe des Européens, pareillement, ce que je voudrais juste montrer, c'est que c'est aussi compliqué. Peut-être juste de la même manière, on a un clivage assez net entre vivre à la campagne et vivre en ville. Et je trouve que c'est intéressant parce que la tendance du début du XXe siècle aux années 50, c'est vraiment une tendance à l'urbanisation de la population européenne. Et ça va vraiment à contre-courant de cette mythologie d'un colon qui serait ancré dans le bled et qui bougerait pas de là. C'est pas ça, en fait. C'est le cas de peut-être de... Ça, forcément, ça existe, mais on a quand même une tendance des Européens à quitter les campagnes pour aller s'installer en ville à mesure qu'avance la période coloniale. Et c'est pas seulement un phénomène qui a lieu pendant la guerre d'Algérie, parce que ça, c'est vrai que pendant la guerre d'indépendance, les derniers Européens des campagnes sont partis se réfugier dans les villes, mais même avant, c'est amorcé de manière très nette. Et par exemple, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, on a 0,5% de la population de la commune mixte de Palestro. Palestro, c'est l'Ardaria, qui est européenne. Il faudrait que je remonte ça. Palestro, c'est en Grande Kabylie, c'est pas très loin de Tizi Ouzou. Donc, on a bien sûr, parmi les Européens qui vivent dans les campagnes, des grands colons qui possèdent des exploitations grandes, voire très grandes, viticoles par exemple, mais d'autres types d'exploitations aussi. Et parallèlement, on a aussi, et c'est une réalité, des petits paysans qui viennent en Algérie parfois par le biais de la colonisation officielle, à partir notamment de la Troisième République, et qui vont essayer de s'installer parce que, à la faveur d'une politique assez proactive, la Troisième République pousse un certain nombre de Français de métropole à venir s'installer. Notamment, par exemple, il y a un certain nombre de filières qui recrutent. Alors, je pense par exemple un exemple anecdotique sans doute, dans les Hautes-Alpes, vous avez le comité protestant de Lyon qui vient recruter des paysans vaudois pauvres pour venir s'installer dans un village qui s'appelle le village de Guiar. C'est à l'ouest de l'Algérie, près de Ain Tmouchent. Et vous avez un village qui se constitue comme ça. De la même manière que des petits pêcheurs bretons vont venir s'installer à Herbillon. Alors pour le coup, cette fois-ci, à l'est, dans le département de Constantine. Donc là, c'est effectivement des petites gens qui tentent leur chance dans l'Algérie coloniale à la fin du XIXe siècle. Sauf que assez vite, en fait, cette politique de colonisation officielle marche mal. C'est un relatif échec, d'une part parce que il y a beaucoup de maladies, un certain nombre une forte mortalité, et aussi une partie de la population qu'on a envoyée dans ces concessions qui sont en fait qui se débrouillent pas forcément toujours bien en agriculture, etc. Enfin, qui sont pas et donc ça marche pas très bien. Et ça permet de voir quand même, je trouve, qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que cette idée de colons très riches qui viennent pour exploiter, faire suer le burnous. Voilà, c'est quand même des réalités assez diverses. Et sans doute que les Européens qui vivent dans les communes mixtes, dans des centres assez isolés, ont aussi... peut-être rencontrer la population algérienne de manière différente que ceux des villes. Et là, il y a aussi quand même un espace pour des rencontres. Je vais y revenir sur ces questions-là, mais c'est rapidement d'autres types de clivages qu'on peut noter. C'est forcément le clivage en termes d'origine géographique. Les Français d'Algérie ne sont pas les métropolitains, ça je l'ai déjà dit, mais on a aussi tout ce qu'a décrit Sylvie Thénault la semaine dernière, c'est-à-dire on a parlé du décret Crémieux, donc j'insiste pas là-dessus, mais il y a aussi un certain nombre d'Européens qui viennent de l'Europe, notamment de l'Europe du Sud, d'Italie, d'Espagne, de Malte, et qui viennent s'installer en Algérie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à la fin du 19e siècle, oui, donc en 1876, vous avez 45% de la population européenne qui n'est pas française, en fait. Donc il y a vraiment un énorme contingent de cette population européenne qui est espagnole, italienne, maltaise, etc. Et donc, c'est aussi ça l'objet de la loi de 1889 dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire fabriquer des Français, notamment pour faire le poids face à une population algérienne qui, bien entendu, est beaucoup plus nombreuse. Et donc, cette loi de 1889, en deux mots, c'est une naturalisation automatique, c'est l'acquisition automatique de la nationalité française pour les enfants des Européens qui sont venus en Algérie et qui sont nés... les enfants qui sont nés sur le territoire algérien et dont les parents sont arrivés de ces différents pays. Et donc, ça permet de donner aussi plus de poids à ce groupe des Européens d'Algérie et qui ont acquis de ce fait la nationalité française. Alors, assez vite, on a aussi du coup des mariages mixtes, des relations entre Européens qui viennent de différents horizons, et une assimilation qui passe par l'école, qui passe par la conscription, qui passe dans une moindre mesure par l'Église. Et on a du coup une francisation de ces personnes qui sont au début désignées comme des néo-français, mais qui, à la fin, finalement, donnent à leurs enfants des prénoms français, ne parlent plus toujours la langue maternelle à la maison. Et bref, là, pour le coup, l'intégration a fonctionné à plein. Ce qui n'est pas du tout le cas, on va y revenir, pour les relations entre populations européennes et algériennes. Donc simplement, voilà, on a une grande hétérogénéité, que ce soit du groupe des Européens comme du groupe des Algériens. Et peut-être que ça permet juste de regarder les choses de manière un peu plus précise. Et du coup, au-delà de j'ai beaucoup là réfléchi en termes de séparation, de clivage, j'ai essayé de découper ces groupes en mille morceaux. Là, est-ce que du fait de cette situation, de cette réalité sociale, est-ce qu'on peut voir des passerelles ou des espaces de rencontre entre ces groupes, et quels sont-ils? C'est ça l'objet de ma deuxième partie. Alors, peut-être ce qu'on peut juste dire pour démarrer, c'est que déjà, 1830, c'est peut-être pas là que commence la rencontre, si rencontre il y a, mais en tout cas, c'est pas 1830 qui sonne le début de la rencontre entre ces deux mondes, européens et algériens. Il y a en fait les travaux récents, notamment en histoire, mais alors j'ai oublié la référence, mais je pourrais la mettre sur le site internet là dans la semaine. Il y a des travaux de Jocelyne Darlia et d'un autre historien dont j'ai oublié le nom, qui ont travaillé récemment sur toutes ces circulations du monde arabo-musulman et du monde européen qui préexiste de beaucoup en fait à la période coloniale et qui montre que depuis le Moyen Âge, il y a en fait des Algériens qui viennent en France, il y a des et vice versa, et qu'en fait il y a une interconnaissance assez poussée de ces populations qui finalement maîtrisent la langue parfois de la langue de l'autre, connaissent la religion, beaucoup de cas de conversion dans un sens comme dans l'autre, et aussi découverte des avancées et des progrès techniques des uns et des autres. Enfin, il y a quand même une interconnaissance réelle avant 1830. Et 1830, ce qui change, c'est qu'il y a un rapport de domination beaucoup plus fort. Je ne dis pas que c'était égalitaire auparavant, mais là, on entre dans autre chose. D'ailleurs, Jocelyne Darclia a écrit dans ce bouquin dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, hein, c'est l'histoire de l'Algérie à la période coloniale qui est composé de, je sais pas, 60 articles, et dedans il y a un petit article de Jocelyne Darclia, mais je vous mettrai la référence. Et puis pour ce livre qu'on a beaucoup cité, peut-être que j'irai voir à la bibliothèque Georges Brassens s'ils peuvent l'acheter, pour éventuellement que vous l'ayez accessible, parce qu'il est gros et peut-être pas accessible à tous, mais je vais essayer de me renseigner s'ils peuvent l'avoir, parce que ça fait vraiment la lumière sur des questions précises en 5-6 pages. Et c'est assez utilisable pour tous, je trouve. Donc, où j'en étais? Simplement, c'était juste pour rappeler que la rencontre, en fait, est bien antérieure à 1830.